Radio Barque, 33e de la saison. Nous entamons cette deuxième partie en espérant que vous avez digéré la théorie quantique que Michel a bien voulu nous suggérer tout à l'heure.
Bon, qu'ils aillent sur mon blog, lire le billet, ils ont la référence.
Oui, voilà. Ça leur permettra d'y réfléchir et d'y revenir.
20 ans et de savoir ce qu'est le chat de Schrödinger.
Oui, oui, surtout. Surtout parce que c'est vrai que celui-là, on ne pourra pas l'inviter à Radio Barque.
Ah non, il est mort vivant à la fois.
Ça va être difficile. 20 ans de chevalier du ciel, Michel.
Oui, alors sur un autre temps, la plus, moins ironique. Hein.
Oui, parce qu'il est difficile d'être ironique.
Oui, il se trouve que j'ai pour voisin...
Opération humanitaire.
Il se trouve j'ai pour voisin Jean-Yves Glémet, qui est le créateur des chevaliers du ciel et de son thème, là, les rêves de gosse. Et c'est vrai que... L'autre jour, nous étions assis sur le même banc qui est devant ma porte, ma porte d'entrée. Il me dit, tiens Michel, voilà, je t'offre la première bande dessinée des Chevaliers du Ciel qui sera présentée d'ailleurs dimanche chez Drucker, à l'émission Vivement Dimanche. Et c'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'a fait cet homme, Jean-Yves Glémet, parce qu'il a réussi à concrétiser ce que tout gosse un jour, moi le premier, mais certainement vous madame aussi, à rêver, c'est-à-dire d'aller là-haut dans les nuages. Quoi.
D'aller voler, et
de briser tous ces liens qui nous enchaînent, à une histoire, à un passé, à un drame, à une maladie, à un handicap, une différence de peau, une différence de culture, enfin bref, tout ce qui effectivement aujourd'hui nous bloque dans nos prisons respectives, si je puis dire. Donc pouvoir s'en échapper de ces prisons-là, voler sur un tapis comme nuage. Alors je dis tapis comme nuage parce que je note au passage pour mes auditeurs que c'est un excellent petit ouvrage de nommé Éric Deluc, un écrivain italien qui a écrit ce magnifique petit bouquin Tapis comme nuage, qui est très beau, que je conseille effectivement à nos auditeurs. Donc voilà.
Et cette opération donc rêve de gosse qu'il faut expliquer en deux mots.
Cette opération rêve de gosse, voilà, elle consiste à offrir la possibilité à des enfants qui souffrent d'un handicap, hémiplégie, handicap mental,
toutes sortes de handicaps,
y compris des handicaps aussi sociaux, en fait, des orphelins, de père ou de mère, en fait, ou de garçons qui sont dans la difficulté, de pouvoir un jour, monter dans un avion et s'envoler, donc voilà, faire cette expérience extraordinaire de se libérer de cette force d'attraction qui nous lie au sol, quoi, et qui nous colle effectivement en fait au réel de manière souvent dramatique, et pouvoir enfin rêver et vivre cette expérience extraordinaire qui est, à cette occasion-là, avec d'autres adultes et d'autres enfants handicapés, de vivre enfin la plénitude de leur humanité, en fait, à ces garçons et à ces filles, dans leur avion.
Et cette opération, donc, qui est née à Narbonne...
Et ça, elle est née il y a 20 ans. Son siège est à Narbonne.
L'aérodrome de Narbonne sert
de piste
d'envol.
Et donc, ils vont entamer, comme à chaque fin de printemps, leur tour de France, dans toute une série de villes dotées d'aérodromes, avec des pilotes, avec des pédagogues qui ont accompagné ces enfants avant de faire cette expérience du baptême de l'air. Bref, sont mobilisés autour de cette histoire extraordinaire. Des pilotes, des enseignants, des pédagogues, des familles et surtout les premiers intéressés, évidemment les enfants qui souffrent de tous ces handicaps que j'ai rapidement illustré.
Voilà, et donc, alors, une BD pour les 20 ans.
Alors voilà, et donc cette BD a été réalisée pour les 20 ans de Chevalier du Ciel et elle sera présentée d'ailleurs, entre parenthèses, au Salon du Livre de Narbonne qui se tient au mois de mai, là, en fait, très bientôt. Et le scénariste de cette bande dessinée, je l'ai lu, elle est formidable. Je l'ai d'ailleurs donné immédiatement à ma petite fille pour qu'elle la lise et qu'elle en prenne surtout la pleine conscience du message qui est transmis là. Donc cette BD sera dédicacée par le scénariste qui l'a créé avec son ami en fait Cédric Fernandez, le dessinateur, au Salon du Livre très bientôt. Donc je conseille à tous nos auditeurs de s'y rendre au salon, d'acheter la BD en question, et ils auront l'autographe de Pierre-Roland Saint-Dizier, le scénariste, et ça contribuera, et ils contribueront d'une certaine manière
à renforcer
effectivement cette association.
Cette image et cette opération. Alors redescendons sur Terre maintenant, et on va atterrir sur un terrain de rugby, celui du Racing, qui est un terrain assez miné depuis pas mal de temps. D'ailleurs,
Oui, alors, il y avait, premier temps,
qui pètent à la figure des uns et des autres.
La dernière séquence du feuilleton du Racing Club Narbonne, qui est un, je le dis pour notre invité, qui est le club de rugby de Narbonne, qui joue un rôle très important encore aujourd'hui dans la cité.
Depuis un siècle, précisons-le.
Il fut effectivement, il y a longtemps, un grand club, il l'est moins. Mais quand même, dans l'imaginaire des Narbonnais, c'est toujours très important.
Il reste important, oui.
Et donc, il est toujours au centre d'enjeux divers, économiques, politiques, culturels, de toute nature. Et sans revenir au billet que j'ai fait sur ce sujet, le limiter à la dernière séquence du Racing, après le comité des sages qui avait été proposé par le maire et qui a foiré, passez-moi la vulgarité des propos, qui n'a rien produit, hein, un comité de conciliation a été mis en place sous l'égide de la Fédération française de rugby, donc la plus haute instance du rugby fait au plan national.
Et de la Ligue.
Et de la Ligue réunie, j'allais l'oublier, pour tenter de régler le conflit, notamment financier, entre l'association du Racing de M. Cosinus, qui gère le centre de formation de rugby, et le club pro, qui est géré par un Australien qui s'appelle Rocky Elson. Alors, il semblerait que la conciliation, sur le papier, ait été effectivement concrétisée par les deux partenaires, et que M. Elson rembourse, ou plutôt apure son passif auprès de l'association.
Oui, paie ses dettes, pour dire les
choses. Bon, qui n'est pas très élevé, mais quand même, en fait, il importe. Hein. Reste maintenant, effectivement, à ce que cette conciliation soit exécutée.
Oui, et ça, c'est pas fait encore.
Ça, c'est pas fait du tout. Mais je voulais surtout attirer l'attention de nos auditeurs sur un point, à savoir que cette conciliation financière ne réglera pas le problème, qui est un problème structurel. À savoir que on ne peut pas imaginer, pour l'avenir de ce club et sur la moyenne et longue durée, que les logiques, en fait, à la fois personnelles et politiques de ces deux structures continuent à diverger.
Voilà, il y a une grande ambiguïté, une grande incohérence dans ce système. On ne peut pas concevoir
que l'un se développe et améliore ses performances sans l'autre et réciproquement. Dans un monde professionnel idéal, il eût été normal et logique que le club soit aussi le propriétaire et le gestionnaire du centre de formation. Ce n'est pas le cas pour un tas de raisons dans cette ville, alors que ça allait ailleurs, entre parenthèses. Mais si, et c'est là effectivement qu'il importe de mettre l'accent, si et tant qu'il n'y aura pas d'accord stratégique sur l'objectif visé par le club professionnel en termes de performance rugbyistique, le type d'équipe qu'il veut mettre en place, le style de joueur qu'il veut produire et promouvoir, et le style de jeu qu'il veut mettre effectivement en œuvre.
Oui, c'est-à-dire en fait trouver une cohérence.
Trouver une cohérence entre les deux structures, on n'en sortira jamais. Et c'est ça qui est effectivement l'enjeu réel du conflit qui est aujourd'hui entre l'association du Racing et le club.
Au-delà des conflits de personnes et des conflits financiers.
Oui. Hein. Alors, j'avoue que sur un sujet parallèle, qui moi me désole, quoi. Hein. J'ai constaté en lisant la presse, et juste avant de venir à cette émission, Jean-Claude, que nos socios de association présidée par un illustre joueur de Narbonne, M. Sutra, hein, qui fêtait le départ, si je puis dire, le départ de l'entraîneur de Narbonne, Harrison, qui a été proprement viré, quand même, il faut le dire, par Rocky Elson. À cette occasion-là, n'a pas manqué de dire et d'avouer, je parle de M. Sutra, un socios, que jamais ce club n'aurait dû être vendu à un Australien.
Voilà qui va arranger les choses,
si je puis dire, et qui montre bien quand même que dans cette ville, hein, reste prégnante l'idée que quand cet Australien, ou plutôt quand on a permis à cet Australien d'acheter le club, on a fait la faute qu'il ne fallait pas faire. Oui. Le problème,
Jean-Claude.
Maintenant,
c'est qu'elle est faite.
Mais que surtout, on se demande bien pourquoi les Narbonnais de Narbonne, notamment certaines grandes entreprises, n'ont pas pris, elles, l'initiative ou le risque d'acheter le club.
Voilà, c'est ce qu'il fallait faire à cette époque-là. On marque une deuxième pause et je rappelle que dans une troisième partie, nous recevrons aujourd'hui Madame Nan Pingao.